VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 19h à Conakry, 20h à Kinshasa, dans 10 minutes, Sporama, présenté par Nicolas Pinault. Mais auparavant, voici notre journal. Au Sénégal, verdict dans le procès de Karim Ouad, l'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad a été condamné pour enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et une forte amende. La défense va saisir la Cour suprême. Nicolas Pinault.
Cette condamnation est inférieure à l'inquisition du procureur, mais elle reste un coup dur pour les partisans de Karim Ouad. Ouad fils est condamné à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. En revanche, le chef d'accusation de corruption n'a pas été retenu contre Karim Ouad, qui ne se voit donc pas privé de ses droits civiques. Emprisonné depuis 2013, l'ancien ministre du ciel et de la terre, comme l'appelaient ses détracteurs, devrait donc rater, sauf miracle, la prochaine présidentielle, alors qu'il a été désigné ce week-end par le bureau du Parti démocratique sénégalais comme candidat. Karim Ouad va se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, c'est ce qu'a confirmé ce soir à VOA Afrique l'un de ses avocats, Maître Cyré Clédorly. Ouad peut aussi espérer une grâce présidentielle. Cette dernière hypothèse est de l'ordre de la chimère, puisqu'on sait que Macky Sall a décidé d'aller jusqu'au bout en matière de bonne gouvernance. Ce verdict a été accueilli dans les pleurs par les partisans du condamné. Abdoulaye Ouad, le père et ancien président du Sénégal, avait fait le déplacement ce lundi matin à Dakar. Cette décision met fin pour le moment à cette affaire judiciaire hors norme.
Triste anniversaire aujourd'hui. Il y a un an, le 23 mars 2014, la Guinée déclarait le premier cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola. Un an après, le bilan continue de s'alourdir alors que les experts avaient espéré que l'épidémie serait jugulée. Camille Grodidier.
Dans son dernier bilan publié lundi, l'Organisation mondiale de la santé parle de plus de 11 800 personnes contaminées par le virus à Ebola. Et de 3 700 décès en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les trois pays les plus affectés par l'épidémie. Au Libéria, une nouvelle contamination a été détectée dans la capitale, Monrovia, la première en un mois. Une déception pour les autorités qui avaient espéré que le recul de l'épidémie ces dernières semaines permettrait de l'éradiquer d'ici peu. Entre-temps, la Sierra Leone a décidé d'organiser un confinement de toute sa population du 27 au 29 mars pour endiguer le virus à Ebola. En Guinée, on continue de signaler des cas, notamment près de Conakry et dans la région frontalière de la Sierra Leone. Le rôle et l'action de l'OMS ont été critiqués dans cette épidémie, mais impossible pour elle d'intervenir dans un pays tiers sans y avoir été invitée, rappelle-t-on. C'est seulement lorsque l'état d'urgence internationale est déclarée en matière de santé publique qu'une intervention internationale est mise en œuvre et il aura fallu attendre septembre 2014 pour que soit déclaré l'état d'urgence international.
Au Gabon, une manifestation de fonctionnaires en grève et de lycéens du service public a été dispersée lundi à Libreville par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène, a constaté un correspondant de l'AFP. Avant la dispersion de la manifestation, plusieurs responsables de l'opposition, dont l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, avaient apporté leur soutien aux protestataires en se joignant brièvement au cortège. Début février, à l'appel d'une vingtaine de syndicats et notamment ceux de l'éducation nationale et ceux de la santé, les fonctionnaires sont entrés en grève pour réclamer des revalorisations salariales. Les établissements secondaires et supérieurs sont quasiment à l'arrêt depuis plus d'un mois, faisant planer la menace d'une année blanche pour les élèves gabonais. Direction la Tunisie, avec une décision prévisible. Vu les failles qui ont marqué l'attentat contre le musée Bardo à Tunis, le Premier ministre a limogé 5 hauts responsables de la police. Les assaillants ont tué 21 personnes dans l'attaque la plus meurtrière, excusez-moi, en Tunisie depuis 13 ans. Michel Joseph nous en dit plus sur ces limogeages.
Une décision prise par le Premier ministre après une visite dans le quartier qui a été le théâtre de l'attentat. Les chefs de la police de Tunis et du musée du Bardo, ainsi que 3 autres agents de sécurité, ont payé le prix de défaillances flagrantes, comme l'absence d'agents de sécurité autour du musée le plus prestigieux de Tunisie qui plus est situé à proximité du Parlement. Les responsables limogés ont aussitôt été remplacés. 20 touristes étrangers et un policier tunisien ont été tués dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Un troisième agresseur identifié est en fuite. Interrogé sur l'avancée des investigations sur les auteurs de cette attaque, le président Essebsi a évoqué pour la première fois un troisième terroriste. Tunis se prépare malgré tout à rouvrir le musée du Bardo demain.
En République démocratique du Congo, les partis de la majorité au pouvoir ont tenté hier d'aplanir de nouvelles dissensions liées à la révision de la Constitution et à la loi électorale. Par ailleurs, toujours en RDC, la Cour suprême de justice dira le 30 mars si elle est régulièrement saisie ou non pour juger une affaire de diffamation concernant l'opposant Vital Kamerhe, poursuivi par une élue de la majorité présidentielle. Monsieur Kamerhe avait accusé Madame Moleka d'avoir été élue en 2011 en fraudant. Et pour finir ces news africaines, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé lundi à Khartoum un accord de principe pour la construction du barrage éthiopien Grande Renaissance. Les présidents égyptiens et soudanais étaient présents ainsi que le premier ministre éthiopien lors de la cérémonie de signature. L'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable et alimenter son secteur agricole, redoutait que le barrage éthiopien n'affecte le débit du fleuve. Le président égyptien a toutefois rappeler qu'il s'agit d'un accord de principe qui doit être complété.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et dans le reste du monde, coup d'envoi aujourd'hui de la visite officielle de 3 jours du président afghan à Washington. Ashraf Ghani s'est félicité du formidable partenariat entre les États-Unis et son pays, tout en remerciant les troupes et les contribuables américains pour leur sacrifice au nom de, je le cite, la liberté et l'espoir. Jacques Aristide.
L'Afghanistan, un pays appauvri, marqué par près de 14 années de guerre, mais au Pentagone en Virginie ce lundi, son nouveau président Ashraf Ghani a promis que le pays cesserait d'être un fardeau pour l'Occident.
We do not now ask what the United States can do for us. If I can play on President.
Nous ne demandons plus ce que les États-Unis peuvent faire pour nous, pour paraphraser le président Kennedy. Nous voulons dire ce que l'Afghanistan va faire pour lui-même et pour le monde. Le terrorisme est une menace, c'est le mal. Mais nous, le peuple afghan, sommes prêts à dire la vérité face à la terreur en disant « Non, vous ne pourrez jamais nous accabler, nous obliger à nous soumettre, nous allons vaincre. »
Après sa rencontre aujourd'hui avec les secrétaires d'État John Kerry et la Défense Ashton Carter, Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah seront reçus demain mardi par le président Barack Obama et son numéro 2 Joe Biden. Mercredi, le dirigeant afghan prendra la parole lors d'une réunion conjointe au Congrès. Jeudi, les deux hommes se rendront à New York pour des réunions aux Nations Unies. En haut de l'agenda de cette tournée américaine du président afghan, le retrait des troupes américaines, un retrait qu'Ashraf Ghani souhaite retarder en raison des attaques terroristes perpétrées pratiquement quotidiennement sur le territoire afghan.
La Jordanie et d'autres membres de la coalition internationale qui mènent des frappes contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie vont former des combattants de tribus syriennes. C'est ce qu'a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement jordanien. En Irak, une vingtaine de personnes ont été tuées, une trentaine blessées, toujours ce lundi, suite à plusieurs attentats à la bombe, notamment dans le quartier de Sadr City et un autre sur le marché de Tarabia. Un troisième engin explosif avait détonné en début de journée près du ministère de l'Intérieur. Aucune revendication n'a été communiquée pour le moment. Des soldats fidèles au président Abdrabo Mansour Hadi ont repoussé la milice chiite des Houthis qui avançait vers Aden, où le chef de l'État est retranché depuis qu'il a fui Sanaa, la capitale, en février. Par ailleurs, le ministre yéménite des Affaires étrangères a appelé lundi le Conseil de coopération du Golfe à venir en aide au gouvernement. Enfin, ici aux États-Unis, le sénateur du Texas et figure du Tea Party, Ted Cruz, a officialisé lundi sa candidature pour la présidentielle américaine de 2016, donnant le coup d'envoi dans le camp républicain à la course à la Maison-Blanche. Ted Cruz est le premier des grands candidats républicains pressentis à se lancer dans la course à l'investiture, devançant notamment Jeb Bush, candidat officieux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. Sporama avec Nicolas Pinault. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur